Info sur VOA Afrique.
Le magazine Femina de VOA Afrique.
Comment éviter le travail des enfants en Afrique et leur garantir l'accès à l'éducation ? Bonjour à toutes et à tous, avec vous, c'est Nathalie Barge. Pour un élément de réponse sur ce sujet, je vais me tourner vers notre invitée ici présente dans le studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington, une experte en la matière, Khadija Doumbia, spécialiste en genre et éducation, directeur honoraire de la Société internationale pour l'étude des langues et notamment membre du conseil consultatif des anciens au collège Excelsior. Bonjour madame et merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Bonjour.
Alors, en Afrique de l'Ouest et du Centre, le nombre d'enfants non scolarisés ne diminue plus depuis 2008, à savoir qu'il était en baisse régulière depuis 2000, donc entre 2000 et 2008. Et donc, c'est plus du tiers des enfants non scolarisés dans le monde, selon une enquête de l'UNESCO avec l'UNICEF en 2014. Alors, cette enquête a été réalisée dans 21 pays sur le continent et elle rapporte que c'est donc près de 32 millions d'enfants qui sont non scolarisés. À ces chiffres, il faut ajouter 17 millions d'enfants scolarisés qui risquent fortement l'exclusion. On pourra parler de tout cela, des filles, etc. Et tous les enfants à l'école d'ici 2015, c'était une initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés. Et nous sommes en 2015. Alors, voilà, je vous pose la question directement. Comment éviter le travail des enfants en Afrique et leur garantir l'accès à l'éducation ? Parce que les deux sont liés finalement.
Tout à fait. D'abord, il faut comprendre que le travail des enfants en Afrique fait partie de comment dire en anglais, de mindset, la manière dont les gens approchent. Quand nous parlons d'enfants qui travaillent en Afrique, qui aident au champ, pour les parents, c'est quelque chose qui est normal. Ce ne sont pas les mêmes critères. Donc déjà, il y a ce point. Et le deuxième point aussi, c'est la pauvreté. Donc, quand les gens n'ont pas beaucoup de moyens, l'éducation est automatiquement au second plan. Raison pour laquelle, également, la plupart des filles ne sont pas scolarisées parce que qu'est-ce qu'elles vont faire avec ? C'est autant aider à la maison. Donc, il y a ces deux points-là. Comprendre que l'éducation de l'enfant est une chose importante. Ce qui veut dire également aussi que les autorités locales et nationales expliquent, parce que ce n'est pas expliqué. Deuxièmement, le manque de moyens fait que les gens préfèrent que les enfants aident. Et troisièmement, surtout en milieu rural, ils ont besoin de mains. Donc, comment faire ? Peut-être qu'il faudrait maintenant, avec tous ces problèmes, réévaluer les systèmes éducatifs et voir dans quelle mesure les ajuster aux réalités sur le terrain. C'est-à-dire, en milieu rural, il y a des périodes où les parents ont besoin d'aide dans les champs. Comment faire pour harmoniser ? Est-ce qu'il faudrait des professeurs flottants, par exemple ? Je ne sais pas, mais il va falloir le voir. Maintenant, le travail au champ, en Afrique, avec les enfants, nous, on considère que c'est le travail des enfants qui ne doit pas être fait, mais les gens au village trouvent que c'est normal, ils doivent participer également. Oui. Donc, trouver un juste milieu, quoi.
Oui, oui, mais alors ça, c'est un point très intéressant, parce que si l'on peut faire une comparaison en France, dans les années 70, j'étais enfant à l'époque, et je me souviens très bien, j'étais à la campagne, mes petits camarades, ils étaient souvent absents parce que c'était un village de paysans, et on se souvient très bien qu'à l'époque, l'éducation nationale française avait déjà ce problème pour que les enfants aillent encore vraiment à l'école.
Tout à fait.
Et au bout d'un moment, on ne demande plus l'avis aux gens. C'est-à-dire que l'école publique primaire devient obligatoire. Et est-ce qu'on peut arriver en Afrique à une situation de ce genre-là ? C'est-à-dire que se dire que l'enfant doit aller à l'école.
L'enfant doit aller à l'école parce que du point de vue national, une, une population éduquée permet à l'économie de s'améliorer. Donc, il n'y a pas tellement de discussion sur cela. Mais cela étant dit, il faut aussi voir les circonstances et les réalités sur le terrain. Pendant plusieurs années, dans des pays africains, on a effectivement répété et dit, il y a des moyens qui ont été mis, mais toujours est-il que le résultat est que beaucoup d'enfants, surtout des filles, ne vont pas à l'école. La raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai dit, il faut voir les circonstances selon les localités, selon les réalités, pour pouvoir, dans chaque pays, mettre en place un programme éducatif qui correspond à la vie de la population cible. Sinon, autrement, dans 10 ans, nous serons là encore en train d'en discuter. C'est ça le vrai souci, en fait.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mm-hmm. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Bon, les filles, c'est sûr, on le sait, les filles sont encore moins chanceuses.
Tout à fait.
Et rapidement, il y a la question, on sait que les organisations internationales ont noté, d'après les enquêtes, dernièrement, que pour les filles, cela devient pire au second cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à cette éducation de base parce qu'il y a des financements, etc.
Tout à fait.
Mais après, elles quittent l'école, on les marie et c'est terminé.
Oui, c'est un sérieux souci. Mm-hmm. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la manière de réfléchir. Le problème est le suivant. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi l'éducation des femmes, des mères, qui souvent n'encourage pas non plus les filles à continuer les études. C'est une réalité. On a tendance à mettre le problème juste sur les hommes parce que nous avons des sociétés patriarcales. Mais en fait, les mères... Bon, et c'est vrai, on le dit souvent que lorsque la mère est éduquée, elle va s'assurer que les enfants soient éduqués. Mais nous avons vu dans certains cas en Afrique où les parents n'étaient pas éduqués, où la grand-mère n'était pas éduquée, mais elle poussait ses petits-enfants à faire des études. Donc il y a tout un travail de fond qui a peut-être été fait, mais qui a été ponctuel. Il faut continuer à le répéter et expliquer aux gens le bénéfice d'une éducation. Parce que souvent, ils ne voient pas le bénéfice de l'éducation. Ils ne la comprennent pas. Mmh. Donc, automatiquement, ce n'est plus très, très important pour eux. Mmh. Donc, c'est ça le problème.
Voir à long terme.
À long terme.
À long terme,
tout
ce
à
que
fait.
Ça apporte à une famille par la suite.
Voilà.
Parole de femme.
Récemment, on a beaucoup parlé des fameux robots solaires de la circulation en RDC, conçus par une association d'ingénieurs essentiellement des femmes. L'organisation Women's Technology, ces ingénieurs ont perfectionné de nouveaux robots qui se sont ajoutés au prototype installé à Kinshasa depuis 2013. Ils font 2,50 m, c'est très haut, ils sont gigantesques. Alors ils règlent la circulation comme un agent de circulation et ils fonctionnent à énergie solaire. C'est formidable. Hein. Alors Women's Technology a proposé aux autorités l'achat de 30 machines identiques pour les grands carrefours de Kinshasa. 5 machines ont déjà été envoyées dans la province du Katanga. Écoutez, Eddy Sango a joint la fondatrice de Women's Technology, Thérèse Isaïe Kirongozi.
Sur la route, les gens voient un robot, mais il y a un centre de contrôle qui se trouve dans une place de la police, là où on voit à temps réel tout ce qui se passe autour du robot. Le jour, c'est à 200 mètres et la nuit, avec les infrarouges, nous poussons à peu près à 250 mètres.
Il s'agit des robots dotés de caméras et qui peuvent communiquer de façon limitée avec les usagers de la route. Thérèse Kirongozi explique que l'idée de fabriquer ces robots lui est venue d'une révolte. Elle avait en effet constaté que de nombreuses femmes qui, comme elle, ont étudié pour être ingénieure, finissaient parfois derrière des étalages des marchés à vendre des petits articles.
J'amène des femmes, je les forme et puis je les laisse pour qu'elles volent avec leurs propres ailes. Nous avons à peu près 10 jeunes filles ingénieures que nous sommes en train de lancer par rapport au système de commandes à distance.
Les soucis de Mme Kirongozi étaient premièrement de réduire le nombre des cas d'accidents sur les routes des grandes villes qui s'élargissent avec la modernisation, atteignant parfois 6 voies. Pour elle, faire bénéficier l'économie du pays des entrées qui peuvent permettre les routes était également un autre souci.
En Afrique, d'après le rapport de l'OMS, il y a 26 personnes qui meurent par heure en Afrique à cause des accidents de circulation routière. Le monde entier cherche toujours des solutions pour savoir comment on peut atténuer les cas des accidents en Afrique, surtout dans ma ville de Kinshasa, là où il y a une grande agglomération de plus de 10 millions d'habitants.
Avec une armature en aluminium, ces robots sont fabriqués par des femmes et des jeunes Congolais. Thérèse Kirongozi, qui s'était lancée dans l'aventure avec seulement l'appui de son mari il y a de cela 2 ans, commence un peu à sourire puisque le gouvernement en a commandé 30. Mais la conceptrice voit large et affirme être en négociation avec certains pays d'Afrique comme l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire où les robots peuvent contribuer au développement et régler les problèmes communs à tous les continents relatifs à la route.
Il faut encourager les initiatives locales. Que c'est ça qui va créer. On ne peut pas attendre un étranger pour venir faire développer le pays.
Selon elle, ces nouveaux robots seront aussi utiles à la sécurité car ils sont dotés des caméras de surveillance.
Vous écoutez le magazine Nos Féminins de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barre. J'ai une invitée ici dans le studio 13, Khadija Doumbia, spécialiste en genre et éducation. Alors, Madame Doumbia, c'est intéressant comme reportage. Alors, sachant que ces dames, ces femmes ingénieures, elles expliquent aussi que elles se sont mises ensemble comme ça parce qu'il ne suffit pas d'avoir une éducation, d'aller à l'école. Mais après, même quand on est bardé de diplômes, eh ben on ne trouve pas de travail.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le problème de travail en Afrique est un problème très sérieux. De plus en plus, les jeunes Africains sont éduqués et il n'y a pas d'opportunités. Et parfois, ils ont de très bonnes idées également, mais il n'y a pas de financement non plus. Donc, c'est un gros souci pour tous les gouvernements africains. Cette initiative est formidable, d'autant plus qu'il s'agit de femmes. Mmh. De temps en temps, quand même, les gens peuvent reconnaître que les femmes sont dégourdies.
Et elles vont créer des emplois, elles créent des emplois.
Tout à fait.
Un millier d'emplois, oui, ça peut s'étendre.
Voilà.
Quoi,
voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elles ont créé a été reconnu, ces robots-là, et intéressent et ont été vendus. Parce qu'elles auraient très bien pu avoir ces produits et personne les acheter, quoi. Mais cela étant dit, touche le problème de l'emploi.
Mm-hmm. C'est la jeunesse en général, comme vous le dites.
Voilà,
c'est pas
ça.
Seulement les femmes.
Oui, c'est
vraiment la jeunesse.
C'est vraiment la jeunesse.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment une bombe à retardement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de solution idoine pour cela, mais il va quand même falloir trouver des alternatives.
Entre parenthèses.
L'extrême nord du Cameroun n'a pas été épargné par les exactions des islamistes armés en provenance du Nigeria voisin. De nombreuses familles ont été obligées de fuir certaines localités frontalières attaquées par les extrémistes pour permettre aux enfants déplacés de reprendre les cours dans leur nouvel environnement. Le gouvernement camerounais fait construire de nouvelles salles de classe. Voici un reportage de notre correspondant sur place, Edwin Kinzeka, interprété par Lionel Gaïma.
Les combattants de Boko Haram venus du Nigeria ont détruit 170 établissements scolaires le long de la frontière camerounaise, forçant les élèves à fuir vers des endroits plus sûrs, a indiqué le gouverneur de l'extrême nord, Mijiyawa Bakari. Cet afflux de nouveaux étudiants met à rude épreuve les capacités d'accueil des écoles non affectées par la guerre. D'où la nécessité d'en construire de nouvelles, dit le gouverneur Bakari.
Les opérateurs économiques qui ont une crédibilité pour que très rapidement, dans un délai de 40 jours, qu'ils puissent construire ces salles de classe, ces dortoirs, ces latrines et ces points d'eau pour permettre à ces élèves de continuer leur scolarité sans un écroche.
L'homme d'affaires Ngué Foncha est chargé de fournir l'électricité aux nouveaux habitants. Il dit que le gouvernement a facilité son travail en réduisant les goulets d'étranglement administratif dans le processus des passations des marchés.
Jusqu'à cette vendredi, tous les fruits seront faits. Et après une autre semaine, le poteau sera debout. Et dans 3 semaines, je crois qu'on va commencer à dire, bon, on est à presque 80%.
L'armée camerounaise est présente sur les sites pour sécuriser les travaux. Si tout se passe comme prévu, les élèves déplacés, dont près de la moitié sont des enfants du cycle primaire, pourront bientôt être relocalisés. Le délégué à l'éducation de base dans l'extrême nord du Cameroun, Ibrahim Joël Mahamad, se montre confiant.
il y a presque 33 000 élèves déplacés. Ce qui est sûr, au début du trimestre prochain, tous ces élèves-là seront assis quelque part et prendre les cours dans de très bonnes conditions.
Ces 33 000 enfants et jeunes qui ont dû abandonner leurs écoles font partie de 150 000 habitants ayant fui leur maison depuis le début des attaques de Boko Haram dans cette région du Cameroun.
Vous écoutez le magazine Au Féminin de La Voix de l'Amérique avec Nathalie Barre. J'ai une invitée sur place ici à Washington, dans nos studios, Khadija Doumbia, spécialiste en genre et éducation. Alors Madame Doumbia, ce reportage que nous venons d'entendre, on sait que déjà en temps normal, ce n'est pas évident d'aller à l'école, mais là en plus, eh bien, on est chassé de l'école. Hein, la guerre, la violence, etc. Votre réaction?
C'est l'éducation en situation de crise. Le gouvernement camerounais est à féliciter parce qu'ils ont pris une initiative. Ce n'est pas tous les gouvernements en Afrique qui sont proactifs de la sorte. Le seul problème dans ce genre de situation, c'est le suivi psychologique. Que ce soit le suivi psychologique des enseignants, des enfants ou même de la communauté en général. Les gouvernements n'ont pas les moyens de le faire et cela est nécessaire. La deuxième chose que je dirais également, c'est que il faut aussi rééduquer les professeurs pour pouvoir éduquer les enfants parce que ce genre de situation entraîne beaucoup de divisions dans les communautés. Et même quand les problèmes sont résolus, il reste une méfiance entre les différentes communautés. Parce que souvent, il y a une communauté qui est pro Boko Haram, l'autre qui n'est pas. Donc, il faut trouver un juste milieu. Donc, c'est un travail à long terme qu'ils ne font que commencer. Mais en général, on dit que lorsque les enfants retournent à l'école, cela veut dire que la situation s'améliore. Mais il va falloir aussi faire le suivi parce qu'il n'y a pas qu'au Cameroun, dans d'autres pays comme Libéria ou en Côte d'Ivoire, où il y a eu des guerres civiles, les enfants sont restés traumatisés. Malheureusement, ce côté n'a pas été pris. Mmh. Le côté psychologique, oui.
Côté psychologique, pour revenir très rapidement avant de se quitter au côté matériel, ce n'est pas qu'en temps de situation de crise que l'on entend ce genre d'anecdotes, construire des salles de classe, etc. Il y a encore tellement d'enfants qui vont à l'école, à l'extérieur, qui n'ont pas de salle de classe, qui n'ont pas de matériel, etc. On peut pas faire un... Il n'y a pas un moyen de faire un petit peu plus d'efforts sur le plan, ne serait-ce que matériel. Parce qu'une salle de classe, c'est pas ce qu'il y a de plus cher quand même. Non.
Donc, cela, maintenant, nous ramène à le sens de la communauté qui est un peu perdue en Afrique. Mmh. Ah, il faut dire les choses. On attend tout du gouvernement. Okay. On attend tout des organismes internationaux. Et à côté de ça, nous avons des gens qui ont réussi leur vie, qui construisent des maisons qui coûtent des centaines de millions. Je n'ai pas dit que c'est mal. J'ai dit
oui, mais
c'est
la
très
responsabilité
bien.
Des communes en elles-mêmes, voilà. les communes, parce que bon, là, c'est quand même pas aux parents de construire des salles de classe.
Cela dépend. Il y a des communes qui existent qui n'ont pas tellement de moyens. Vous avez souvent des communes, le seul budget qu'elles ont, c'est pour pouvoir payer leurs employés. Donc, il faut que la communauté prenne ses responsabilités.
Let's go. Et voilà, on arrive au terme de l'émission. Nous étions avec Khadija Doumbia, spécialiste en genre et éducation. C'était le magazine Au Féminin avec Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky, you rise.